Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode du podcast francophone Hack & Speak. Aujourd'hui, un épisode vraiment particulier, un épisode qui me tenait à cœur de faire et que je rêvais de faire depuis longtemps. On a, à travers les épisodes précédents, vu différents invités qui ont tous participé à l'univers open source et à l'amélioration du tooling dans la communauté InfoSec. On a vu des projets tels que Responder, qui ont plus de 15 ans et qui sont toujours aussi actifs en 2021 et toujours aussi redoutables. On a vu des projets tout récents, qui n'ont même pas un an et qui pourtant ont déjà prouvé leur valeur à mes yeux. Je pense à Elsassi de Pixis ou PrivCheck de Hitman. On a écouté des histoires magnifiques sur l'idée, la création de ces outils et les difficultés rencontrées. Mais aujourd'hui, on va parler d'un des outils les plus connu dans le monde de l'InfoSec, et c'est un outil qui est présent dans tous les tutoriels que l'on peut lire sur du hacking Windows. C'est à mes yeux un des projets qui a contribué grandement à l'univers open source côté offensif, et ce projet c'est bien évidemment Mimikatz. On essaiera aussi de parler de Kekeo, qui est un autre projet de son créateur, qui est ni plus ni moins Benjamin Delpy. Donc Benjamin, merci et bienvenue à toi dans ce podcast.
Merci, quelle introduction.
Quelle introduction, j'avoue, j'ai préparé. Mais comme à chaque fois, et pour tous les invités, j'aime poser cette première question. Parce que la réponse peut être parfois surprenante, c'est quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a fait tomber dans l'infosec, ou du moins dans la partie offensive de la sécurité.
Mon parcours, on peut remonter très loin, mais je ne pense pas que la maternelle t'intéresse. Mais je viens d'un monde informatique relativement simple. J'ai un BTS informatique réseau, industrie et services, tout ce qui est plus simple. Et donc rien ne me prédisposait à travailler dans le milieu de l'infosec. Mais au final, on ne vient pas d'un infosec parce qu'on veut faire de l'infosec. On vient dans l'infosec parce qu'on commence à comprendre comment fonctionnent les machines. On veut comprendre comment fonctionnent les machines. Et on déroulera un petit peu plus après, mais au final, c'est en cherchant à comprendre comment fonctionnaient certaines techniques historiques, comme le pass de hash ou du dump de mot de passe de hash des bases SAM de Windows, ou vouloir exporter des clés privées qui n'étaient pas exportables. Donc des besoins finalement simples et des choses relativement historiques. Je me suis mis un petit peu à programmer et à regarder comment les choses marchaient. C'est comme ça qu'on plonge là-dedans. Mais dans les faits, non, j'ai aucune étude qui est liée à la sécurité informatique. Ça n'existait pas à mon époque, de toute façon. Et je pense que ça m'aurait saoulé. J'ai arrêté assez vite pour me mettre directement sur de l'opérationnel.
Donc à la base, c'est plus développeur, si on peut dire.
J'ai même plutôt une étude qui vient de l'électronique. Électronique numérique, quand même, c'était un peu moderne où j'étais. Mais non, c'était plutôt administrateur système, avec la programmation comme tu apprends à l'école. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est d'école, Java. Il y avait de l'assembleur pour microcontrôleur. Petite chose de ce type-là, mais tu ne programmes rien de particulier sous Windows quand tu es à l'école, en tout cas pas à mon époque.
Je retrouve des similitudes avec Laurent de Responder, donc lui qui avait que le bac, mais qui effectivement, à son époque, il n'y avait pas de cursus cyber, comme c'est le cas.
Il n'y avait pas de cursus informatique tout court.
Tout court.
Hein. Avant au lycée, il n'y a pas de. Enfin, quand j'y étais, dans les années 2000 et quelques, il n'y a pas de cours d'informatique en tant que tel. C'est pas une matière, une science. Et que après dans les écoles d'ingénieurs où tu commences un petit peu à en faire. Et à l'époque, effectivement, rien n'était lié à la sécurité informatique. Et étonnamment, tous ceux qu'on connaît maintenant en sécurité informatique, ceux qui, entre guillemets, de mon âge ou un petit peu plus vieux, vu qu'il n'y avait pas d'études, certains sont très très bons et n'ont jamais eu de cours dans ce domaine-là. C'est l'expérience qui parle à la fin.
Ouais, c'est intéressant. Comme quoi, le diplôme ne fait pas tout, c'est toujours bon de le rappeler.
Non, tu ne souhaiterais pas être à une de mes interviews pour faire prestataire ou travailler dans mes équipes. Le diplôme ne compte pas du tout, c'est que des questions et de la pratique.
Maintenant, on va passer au vrai sujet, au cœur du sujet de ce podcast, c'est Mimikatz, bien évidemment. Alors, l'idée de ce podcast, c'est bien évidemment de parler du tool et de sa création. Et du coup, on va revenir dans le passé. Est-ce que tu te rappelles à quelle date l'idée de l'outil, sans l'avoir commencé à le développer, mais l'idée de se dire je vais faire un outil qui va aller chercher des informations dans la mémoire du processus Elsass a germé dans ta tête? Est-ce que tu t'en rappelles?
Bah, en fait, je me suis jamais dit, je vais faire un outil de sécurité et aller fouiller l'ordre de l'SASS. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'était plutôt, même à la base, même Mimikatz, même s'il y a eu plusieurs noms avant, ça n'a jamais été dire, je vais faire un outil. C'est, au départ, je faisais un petit programme qui me permettait de lister les processus en C. Je faisais un autre petit programme qui me permettait de tuer des processus en C. Voilà. Un autre programme qui me permettait de lister les certificats en C, tenter des exploits. Voilà. Et puis au bout d'un moment, je fais, c'est quand même un petit peu couillon. Je perds quand même pas mal de temps à créer des programmes à chaque fois que je veux tester quelque chose. Il me faut une base un petit peu solide que je vais pouvoir réutiliser, histoire d'avoir un programme qui prenne moins de place, qui soit plutôt pratique pour moi et facile à programmer. Et donc j'ai créé la base de Mimikatz, ce qui était un petit programme avec la petite ligne de commande qu'on codait, où je tape les commandes que je veux tester et j'ai le résultat. Voilà. Et dans tous les petits modules que je me suis rajouté, qui étaient pour ma compréhension perso, hein, le passe-OH, le dump de certificat non exportable, et ben, au bout d'un moment, dans mes petites recherches, je me suis intéressé à comment fonctionnait le single sign-on de Terminal Server. Quand tu fais du RDP hein, sur des serveurs. Et en fait, Microsoft documentait une manière de paramétrer Windows et hop, tu n'avais plus besoin de taper ton mot de passe quand tu te loguais en terminal serveur sur des machines. C'est quand même assez magique quand tu manipules ça tous les jours, tu dis qu'est-ce que je vais être efficace. Mais je voulais surtout savoir moi comment ça fonctionnait derrière. Et j'étais persuadé que ça avait un rapport avec le passe de hash. Donc j'ai commencé un petit peu à reverser tout ça, à regarder comment ça fonctionnait. Et en fait, non, pas du tout. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Et au fur et à mesure de mes débugs, je me suis aperçu que quand je mettais des breakpoints aux bons endroits, ben, je trouvais le nombre d'étoiles qui étaient dans le champ d'ouverture de session était équivalent à la longueur de mon vrai mot de passe, même quand je le changeais. Donc, bon, mon mot de passe doit donc être quelque part, puisqu'il arrive à être tapé, alors que moi je ne l'ai pas tapé. Voilà, donc je suis parti du postulat que le mot de passe était en mémoire et que maintenant il fallait que je le trouve. Et donc, au fur et à mesure, donc, à l'époque, j'injectais des DLL dans les processus pour lire la mémoire. J'ai créé le module TS-PKG, enfin le module de nom de TS-PKG, très vite suivi par Wdigest, qui est le provider le plus connu, et au fur et à mesure, du Kerberos, du Live, enfin, et tous les providers qui peuvent traîner dans Mimikatz. Alors, les providers de mots de passe en clair, c'était en 2011, mais la base, déjà des certificats exportables, pas exportables, qui sont devenus exportables, c'était déjà avant, j'avais commencé ça avant, en fait. Mais évidemment, j'avais mon petit blog en français sur un truc qui intéressait pas vraiment le monde. C'était pas connu. Donc, tout le monde se souvient juste de Mimikatz, mot de passe en clair, mais non, j'avais déjà deux, trois trucs sympas. Je crois que j'étais un des premiers programmes qui permettait de dumper, par exemple, les hash des contrôleurs de domaine, y compris quand ils étaient 64 bits, et y compris quand les noms d'utilisateurs contenaient des CCDI ou des E accent aigu comme nous on peut avoir en France. Ça a l'air de rien, mais dans la vraie vie, ça évite de cracher un DC quand t'es en mission. Donc, je portais l'UTF, et quand je dis ça, c'est que ça m'est arrivé.
Alors,
Voilà,
cracher un
des
DC,
choses.
je ne le souhaite à personne.
Maintenant, ça passe mieux quand on a plusieurs, mais voilà. Mais dans tous les cas, t'as un mauvais moment quand ça arrive et tu te dis, il va falloir que je programme un truc moi-même pour ne plus que ça arrive. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né un petit peu Mimikatz, c'est le toolkit que je me suis fait avec, qui n'a pas cessé d'évoluer effectivement depuis. Mais c'est pas, je me suis pas dit, tiens, je vais faire un programme qui va dumper et faire ça. C'est, tiens, dès que je voudrais tester quelque chose, une théorie reversée, ben, ça sera plus facile dans mon petit framework. Et vu que j'aime pas Python, ben, je me suis fait mon petit framework C à la main dans Visual Studio et j'étais heureux.
Et le nom du coup Mimikatz, c'est on te l'a suggéré ou ça t'est venu ou c'est une inspiration par rapport à d'autres outils qui finissaient par Katz ou qui commençaient par Mimi, je sais pas.
Bon, à la base, alors déjà le cas, il faut qu'il y ait un cas dedans, mais ça c'est parce que c'est par rapport à mon pseudo Kiwi, je trouve ça fun. Donc il fallait qu'il y ait un cas. Donc tous mes programmes s'appelaient au départ, alors il y a même eu k.exe, il y a eu kdllpipe, pipe, parce qu'à la base j'injectais une DLL dans un processus et je communiquais avec elle avec un pipe. Voilà, donc c'était pas des noms très parlants au final, pas très fun. Même à taper pour moi, c'était un petit peu chiant sur le clavier quand je devais les lancer. Enfin, c'était dans ces considérations-là. Donc à la fin, il a fini par s'appeler Katz, Katz. Sauf que voilà, il y avait déjà une bande dessinée qui était nommée, même je crois que cette orthographe-là qui existait. Et je me suis dit, bon, je peux avoir des problèmes avec ça. On sait jamais. Hein, vu que c'est un outil qui peut servir à faire des choses en sécurité qui peuvent être mal vues. Je ne veux pas non plus porter préjudice l'un ou l'autre. Donc je l'appelais Mimikatz parce que je trouvais ça mignon au final. Le mi devant, c'est pour mignon. Alors ils ont du mal, les Anglais ont du mal à prononcer, mais voilà, c'est Mimikatz. C'est un
Hey,
petit chum.
comment il le prononce en anglais?
Ah,
My
my cat, il y a de tout. Il y a vraiment de tout, mais il n'y a jamais de prononciation correcte.
Ah,
Et
c'est
moi, je
marrant.
parle très mal anglais, bah, c'est pareil de leur côté au final.
Ouais, c'est ta petite revanche par rapport au fait que tu dois aller faire une conf en anglais. Au moins, toi,
Alors,
tu prononces Mimi
non, parce
4.
que quand je l'ai créé, je ne m'imaginais pas devoir bouger pour aller en parler quelque part un jour, quoi.
Et
J'étais content dans mon coin, c'était pour moi, hein.
c'est justement bah, cette question que je veux te poser. Donc là, on va dire que, ok, là, tu sais que tu as fait un outil qui peut intéresser du monde et tu peux être invité au conf, etc. Quand tu le devs, cet outil, est-ce que tu te dis, eh ben, c'est normal que je le fasse, que je, enfin, c'est bizarre, il n'y a pas grand-chose qui est équivalent dans le monde de l'open source ou pas de recherche qui est trop équivalente, et ben, je vais le publier. Ou est-ce que tu sais que déjà, tu as entre les mains un outil qui va potentiellement changer le cours de, on va dire, bah, des pentesters, hein, la vie des pentesters, ta vie aussi, je pense, puisque les invitations aux confs, etc., ça change une vie. J'avais entendu dire kidnappé par le KGB,
Non, pas
tout ça.
kidnappé,
Non, j'exagère.
pressé, mais...
J'exagère. J'exagère, mais bon, j'ai envie de choquer l'auditeur un petit peu. Non, j'exagère. Mais est-ce que tu. Voilà, quand tu. L'outil n'est pas sorti, toi, tu l'avais dev de ton côté, tu avais ta petite version privée. Est-ce que tu t'es dit, moi c'est normal, je vais le sortir, ou tu t'es dit, là j'ai quelque chose, ça va changer un peu la façon de faire un pen test?
Alors non, parce que je suis un petit peu contre le pentest au sens strict du terme, et je faisais ça vraiment pour moi, c'était pas dans le sens je faisais ça pour les autres. Non, je l'ai fait, je me suis dit effectivement, moi ça m'a l'air grave de trouver des mots de passe en clair en mémoire. Et effectivement, j'avais recherché sur internet, je fais purée, je trouve vraiment rien qui en parle, même en produit fermé, hein, il y avait vraiment rien qui en parlait, effectivement, pas de papier, rien. Ça m'a inquiété, je me suis dit, je peux pas être le seul à avoir trouvé ça, c'est pas possible. Hein. Dans mon petit appart tranquillou avec mon café en train de programmer ça, c'est quand même bizarre que tout seul j'ai pu faire ça. Donc, en étant plutôt ça, j'ai même ouvert un case hein, chez Microsoft. Attendez, moi je trouve ça paraît quand même
T'avais un
anormal.
ticket.
Oui, j'avais un ticket, bien sûr.
C'est pas mal.
Mais je le garde précieusement.
Ah
C'est
bah
le premier
oui, je
truc que
savais
je
pas que
trouve.
t'avais
Parce
un
que...
ticket.
Et à l'époque, c'était en 2011 hein, quand même, hein, Microsoft avait quand même une réponse assez classique qui était bah oui, mais ça nécessite des droits admis, on s'en fout. Voilà,
Ah
je me suis dit,
oui,
bah,
ah oui.
si vous prenez cette position-là, moi je considère que non, puisque ça permet de rebondir très facilement. Là, l'histoire m'a donné raison, entre guillemets. Mais ça permet de rebondir, ça permet d'asseoir son emprise sur un réseau et de découvrir des choses qui ne sont pas les nôtres aussi. Même si techniquement, oui, ils ont raison. Mais je dis, c'est quand même dangereux et à minima, même en ne corrigeant pas, vous devriez au moins documenter que c'est possible que les gens agissent en conséquence et prennent et sécurisent leur réseau de manière adéquate ensuite hein, derrière. Ils vont refuser, etc. Donc, une fois que j'ai vu le mail de Microsoft qui disait bah, c'est pas un problème pour nous qu'il faut être admis, je suis bah ok, j'ai pas de problème, je vais le bloguer. J'ai mis sur mon blog en 2011 et j'ai diffusé le programme, alors pas le code source, juste le programme pour que les gens même puissent l'utiliser. Hein. Je me suis dit, ouais, il n'y a pas. Si moi je l'ai découvert, ça veut dire que les gouvernements, à mon avis, le savent, etc. Il faut que tout le monde soit au courant pour pouvoir au minimum prendre la mesure de qu'est-ce qu'ils doivent gérer comme problème de sécurité maintenant. Et le principe de ne pas diffuser les codes sources, c'était pas que je voulais garder ça pour moi, c'est parce que j'avais vraiment programmé ça, pas comme import, mais ouais, quand même pas loin. J'étais vraiment pas fier de mon code, alors, toujours pas trop maintenant, mais là vraiment encore moins. Hein, vraiment. Et je voulais quand même pouvoir réaliser un truc qui était quand même un petit peu plus propre. Donc j'avais prévu de toute façon, hein, alors, ça c'était quasiment un an après, hein, quand j'étais invité au PhD à Moscou, la tradition veut qu'après une conférence, tu diffuses l'outil. De toute façon, j'avais prévu de le faire et le code source était propre à ce moment-là. Mais quasiment pendant un an, personne n'a compris le principe, malgré mes explications, qui expliquaient, ben voilà, c'est dans la DLL, c'était le nom de variable, c'est le truc, il n'y a pas d'outil équivalent qui est sorti. Alors, un mois avant, il y a WCE, Windows Credential Editor, qui a copié mon travail dans WCE. J'étais pas super content en tant que tel, mais dans les faits, ça faisait un autre outil, donc ça faisait plus de gens qui voyaient la problématique, voilà, en tant que tel. Mais... Non, c'était à la base, c'était pour moi. Et une fois que j'ai découvert que c'était grave et que Microsoft s'en foutait, je me suis dit, il faut que les autres soient au courant. C'était pas le but que ce soit offensif. Je me suis dit, un exécutable que je diffuse en tant que tel, en plus, il va avoir une signature antivirus immédiatement. C'est pas possible. Je me suis dit, ça peut pas faire de mal, ça va juste servir aux gens à faire des expériences. Quand tu parles, Microsoft, ils ont mis un an à faire une signature dessus, par exemple. Hein.
Mais est-ce que tu penses aussi que le fait que, enfin, je sais pas quel était l'état de la communauté en 2011, je crois que j'étais encore au lycée. Oui. Est-ce que c'est pas lié au fait qu'il y avait, comment dire, moins ces outils de communication comme Twitter, etc., où maintenant, dès que tu trouves un truc, une recherche, tu publies, et si tu as la chance que ce soit intéressant ou que quelqu'un de très connu te retweet, tout de suite, ton recherche prend de l'ampleur et l'outil est très très vite connu et la technique est vite connue par rapport à 2011 où peut-être qu'il y avait moins cet effet-là. Est-ce que...
Il y avait moins cet effet-là, mais en 2011 déjà, certaines personnes, une fois que j'ai découvert ça, m'ont conseillé effectivement d'en parler sur Twitter, déjà en 2011. Donc je l'ai fait, et effectivement, ça apportait un peu plus de visibilité sur la problématique. Et effectivement, certains pays m'ont vite remarqué. Voilà. Les Chinois, j'ai vu des forums en Chine où ils essayaient de réverser mon truc dans tous les sens pour essayer de l'industrialiser.
Oui.
Et les Russes, plus intelligents, se sont dit, on va plutôt l'inviter à faire une conférence pour nous en parler. Voilà. Et les Américains. Il y a tellement d'écoles, tu verrais ça, selon les gouvernements et leurs services. C'est très, très différent selon les pays. Mais voilà, les Français avaient l'air très au courant déjà, mais ils n'en parlaient pas. Enfin, ça a permis un petit peu de faire émerger le problème. Et ça a eu des réactions assez différentes. Et ça a permis aussi d'inspirer des travaux d'autres personnes. Bon, t'as bien vu, il y a différents outils ensuite pour émerger des années après, ou même dans la foulée. Et ça a aussi permis de faire des... Il y a même des boîtes qui ont été créées quasiment pour défendre des techniques Kerberos que j'utilisais, des choses de ce type-là. Donc ça a permis de créer un certain marché et un certain écosystème aussi qui permet de se prémunir contre ces attaques. Alors c'est un double tranchant. Il y a plus d'attaques qui bénéficient de ces attaques-là parce que des scripts qui disent arrivent à s'en servir alors qu'avant, c'était pas vraiment le cas. Mais ça permet aussi de trapper des gouvernements qui utilisent les mêmes techniques. Dans le leak de la NSA, par exemple, il y a exactement la même technique que j'utilise pour WDigest, par exemple.
D'accord. C'est intéressant. ça me porte à réfléchir ce que tu as dit.
On ne saura jamais qui a été le premier. C'est pas le but. Ils n'ont pas fait une doc précise avec la date et l'heure de quand ils l'ont fait. Ça semble quand même assez correspondre, quand même, c'est assez fou. Et on va dire que c'est pas moi qui ai piraté la NSA. Voilà. Mais on retrouve les mêmes techniques. Et donc, si derrière il y a des outils de sécurité ou des événements qui sont créés sur mes outils, on trappe effectivement ce genre d'outils.
Bah,
même si c'est pas les miens.
D'ailleurs, on se souvient qu'il y a aussi des antivirus ou des EDR, je sais plus, je citerai pas le nom, qui se sont fait la pub sur Mimikatz en disant nanana, bloque Mimikatz avec des nerfs. Je pense que tu vois bien la photo.
Mais ils ont vite arrêté.
Oui, ils ont vite arrêté. Bah, j'ai vu que tu l'avais pris personnellement.
J'ai voulu jouer à leur jeu.
Ouais,
j'étais pas cette année-là à Black Hat. J'ai dû réagir à distance, mais ils ont pu recommencer.
Mais
il y a un autre DR en plus. Il y a eu plus discutable qu'il y a un autre DR, pas cette marque-là, qui en plus, après, a joué sur la mauvaise pub qu'avait eu l'autre de la première marque pour faire sa propre pub. Donc, il est démonté dans la foulée aussi pour leur prouver qu'il fallait arrêter ce genre de comportement, que c'était pas non plus très sain. Mais étonnamment, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir les dirigeants de chaque entreprise qui m'a appelé, bon, excusé, voilà, blablabla. Et tu sens que le département marketing de chaque société n'avait pas validé avec eux ce qu'ils allaient faire.
D'accord, c'est marrant. Après, tu sais, c'est marrant, mais des fois on dit, tu sais, toute mauvaise pub, bonne ou mauvaise est bonne à prendre. Je me souviens de cette EDR à cause de ça, même si c'est pas forcément la meilleure image.
Eux, ils ont eu une réaction un petit peu épidermique, ils n'étaient pas très contents. La deuxième, étonnamment, ils ont dit, ah, t'as trouvé ça ? Même, ils m'ont payé un bug bounty d'ailleurs.
Après,
c'est élégant, tu vois, c'est le geste qui est élégant. C'est non, mais de notre marketing, on le fera plus, blablabla, et en plus, on fait ça. Ok, ils m'ont pas acheté. En tout cas, c'était sur Twitter. Hein, voilà, donc il n'y avait pas de secret. Mais non, ce genre de boîte-là, il y a quand même des techniciens qui sont très très bons derrière, qui désapprouvent ce genre de technique de marketing totalement. Mais ils peuvent pas le dire. C'est l'image de boîte, etc. Mais les gars qui bossent sur les codes sources de ces trucs-là et qui essayent d'arrêter les attaques, ils sont très bons. J'ai aucun problème avec eux personnellement. Mais ils n'ont pas leur mot à dire sur les techniques de marketing dans des salons, évidemment.
Mmh. Bah, puisqu'on parle de gens qui essayent de défendre, j'ai vu, hein, alors pour les auditeurs qui ne savent pas, s'ils sont un peu curieux et qui tapent ton nom sur Internet, ils vont vite trouver, mais je vais le dire. En 2017, tu es invité, alors je ne sais pas si l'année d'avant tu avais été invité, je n'ai pas vu, mais en 2017, tu es invité à la Blue Hat. C'était la première année 2017 ?
En fait, j'étais invité à Blue Hat Amérique, chez Microsoft à Redmond, et à Blue Hat à Tel Aviv. Il y a plusieurs éditions de Blue Hat qui existent.
Ouais, mais la première année, c'était quand ?
Je crois que c'était 2014, à Redmond, si je me souviens.
Ah, d'accord, mais il n'est peut-être pas sur diffusion.
Non, il n'est pas public celui-là.
Non, voilà.
Mais le premier Blue Hat public, il y a eu plein de conférences, il y a eu Black Hat, etc. Mmh. Mais Blue Hat Microsoft public, je crois que le premier c'était ou 2016 ou 2017, mais voilà, il y en a eu un.
Moi, j'ai 2017, 2018 avec Vincent Letout, qu'on salue.
2019, oui, ça me donne
et 2000, pas. Et 2019, alors, bien sûr, il y a eu toutes les autres conférences que tu as fait, mais moi, j'aime bien, je voulais aborder la Blouette.
T'as bien aimé celle-là, plus que les autres, pourquoi?
Ah ben alors, là, je vais en parler. Alors déjà, pour mon podcast, et par rapport à ce que tu viens de dire, la Blouette, c'est...
C'est le bleu de Microsoft, déjà. C'est bleu pour Microsoft.
Et au final, toi, t'avais fait un tool offensif qui attaque finalement un petit peu leur protocole, etc. Enfin, qui utilise leur protocole. Et le fait que tu sois invité, alors, autre qu'à des conférences type Black Hat ou DevCon, ou ça pourrait être tout type de conférences offensives, le fait que tu sois invité à des events, justement, par Microsoft, est-ce que pour toi, tu t'es dit, après toutes ces années, parce qu'on parle quand même de 2014-2017, sachant que c'est sorti en 2011, est-ce que pour toi, tu t'es dit, voilà, ça c'est le bon esprit, ils ont enfin compris que pour défendre, il fallait mieux comprendre ce que fait l'offensif, ou est-ce que pour toi c'était juste qu'ils essayent de montrer qu'ils essayent de faire au mieux dans l'image, ou vraiment ils prennent en compte ce que tu fais?
Non, ils sont, enfin, il y a eu un changement d'état d'esprit chez Microsoft, alors c'est pas 2011 pile poil, mais à partir des années 2010 jusqu'en 2013, il y a eu un changement de politique chez Microsoft, ils ont complètement changé d'attitude par rapport aux chercheurs extérieurs à Microsoft. Qui les titillait. Avant, il y avait un dialogue qui était complètement fermé. Et pendant, il y a eu des années un petit peu dorées, hein, sur lesquelles les chercheurs étaient un peu choyés. On avait des contacts avec Microsoft. Ils nous encourageaient même. Hein, ils nous offraient des licences pour qu'on continue de faire des recherches, et qu'on les prévienne. Donc, non, ils ont un très bon état d'esprit dès qu'on remonte au bon niveau chez eux. Et voilà. Mais ça s'est très bien passé. Mais effectivement, la première fois que Microsoft, alors il n'y a pas que moi, hein, quand j'étais à Microsoft US, j'étais avec Chris Campbell et Skip de Cole, avec qui j'ai présenté à Black Hat la partie des Golden Tickets. Bon, on était invités là-bas. Je t'avoue qu'on s'est quand même posé la question, est-ce qu'on accepte ou pas quand même? On va un peu chez l'ennemi quand même. Hein, il y a des gens de chez Microsoft qui sont très fermés, très ouverts, mais il y avait aussi des équipes produits où tu sais que tu leur as fait perdre des, je sais pas combien, de mois, d'années, hein, de développement sur des trucs, ou même les équipes de, t'imagines, le support chez Microsoft à chaque fois que je fais certains tweets. Ils se prennent des cases d'interrogation. Voilà. Je sens qu'il y a des gens qui sont pas très heureux que tu sois dans leur locaux choyé. Voilà.
Ouais.
On s'est posé la question, on se dit, dans tous les cas, c'est toujours un bon moyen de troller en étant sur place. Voilà. Pourquoi ne pas y aller? On n'a rien à perdre, hein. Ils vont pas nous séquestrer. Et effectivement, on nous a même offert une place de keynote. Hein. Je crois qu'on a eu, je sais pas, plus d'une heure et demie en conférence à trois, en faisant des démonstrations, en leur prouvant en essayant de leur prouver qu'ils avaient tort sur certaines stratégies. Arrêtez de vivre dans votre bulle. Tout le monde n'a pas Windows 10 à jour chez eux. Il y a du legacy. Il faut savoir vivre avec et vous devez les considérer. On a fait pas mal de choses de ce type-là. Ça en a choqué quelques-uns et on a eu de très bons retours, hein, d'équipes techniques qui me disaient que c'était très bien que nous on vienne en parler parce que, comme dans n'importe quelle boîte, quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient le lire, on est plus écouté que c'est des gars de l'interne. Donc, même chez Microsoft, ça reste une boîte parmi une boîte et le fait de faire appel à des externes pour dire des choses qu'ils ont envie aussi de faire passer comme message, ça les aide. Voilà. Et sur Tel Aviv, sur la partie boîte en Israël, là c'est un autre état d'esprit. Eux c'est des gros malades techniques, hein, dans tous les cas. Je suis allé à des conférences là-bas et effectivement Microsoft invite un gars qui va leur démontrer sur scène avec à coup de WinDBG comment démonter Hyper-V. Je fais ah oui d'accord, on sait pas, je m'attendais pas à ça. C'est un niveau technique hyper élevé sur ces sujets. C'est aussi pour ça que j'adore y aller, c'est pas juste donner la conf, j'assiste aux confs et je me régale. Il y a un super niveau en Israël du côté Microsoft. Il y a beaucoup de R&D aussi qui est sur place. Et toutes les boîtes sont hyper amicales. Ils partagent beaucoup de choses entre elles et on apprend énormément de choses. Donc, c'est pas du tout le même mindset. Et c'est aussi pour ça que je retournais régulièrement avant la crise.
Oui, oui, ça a un petit peu cassé le truc là. C'est pas pareil à distance. Hein, c'est pas pareil.
Ouais. Oui. Puis justement, mon avantage, c'est aussi qu'on devait plus bosser aussi dans le milieu sur site, moins de temps pour les recherches aussi.
D'ailleurs, tu m'avais dit pourquoi tu préfères regarder les Blue Hat par rapport aux autres. Eh bien, écoute, moi, il y a deux raisons. Je les ai regardés, ça dure effectivement une heure, je crois, à chaque fois, peut-être un peu plus, un peu moins. Donc, les trois, j'ai regardé 2017, 2018, 2019. Il y a deux choses qui m'ont marqué. Bon, premièrement, tu as toute la démo. Tu as une compile de 3 heures de démo sur Mimikatz et Kikeo. ce que je trouve assez remarquable parce que, en fait, tu as toujours une option. L'outil est tellement grand, il y a tellement d'options qu'il y a toujours une option que tu ne connais pas ou que tu utilises mal. Et quand tu as regardé les 3 heures de conf, moi j'appelle ça une démo, tu peux le regarder deux fois, tu apprendras toujours une une commande en plus. Et il y a une autre chose qui m'a marqué et qui me plaît presque, pardon, c'est l'humour qui est absolument absent dans les Blue Hats. Parfois, tu fais même très souvent des petites blagues, mais personne ne rigole jamais. C'est assez surprenant.
C'est de l'humour français.
Ouais, mais je pensais notamment, il y a un moment où tu dis, voilà, je voulais comprendre comment fonctionnait Kerberos. Il y avait la RFC, mais finalement, j'ai remarqué que c'était plus simple de reverse la DDLL, je ne sais plus laquelle, et après de lire la RFC, parce que sinon, c'est trop compliqué. Bon, c'est une petite blague, tu vois.
Ah mais oui, mais c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai.
Voilà. Donc moi je souris moi-même derrière mon écran et je vois que, enfin, on sent bien que personne ne rigole. Et limite, ça me fait encore plus rire, tu vois, que personne ne tilte. Et c'est pour ça que j'aime, parce que le public est absolument très particulier, sans humour.
C'est des particuliers, et ça, je l'ai remarqué dans toutes les conférences, et c'est aussi ma faute, c'est que je les assomme. Je les assomme. Effectivement, j'essaie de faire passer énormément d'informations en très peu de temps. Et les mecs se prennent une baffe, pas forcément technique, il n'y a pas forcément des choses nouveaux, vraiment forcément nouveaux pour certains, mais effectivement, ils voient passer un nombre de trucs qu'ils doivent assimiler en très peu de temps, et c'est pas simple.
Ah, si
et
la majorité,
ils regardent après les vidéos, en fait, pour comprendre ce que j'ai dit.
Les conférences, ils sont peut-être plus assidus aussi, parce que si tu regardes les conférences offensives, ça rigole un peu plus aux blagues, ou ça applaudit un peu plus, tu vois, c'est plus... enfin, voilà.
Oui, mais c'est un autre mindset.
C'est un autre mindset, exactement.
Je suis pas là pour dire je suis pentester, voici comment j'ai fait, etc. Moi, c'est, franchement, je me fais pas chier, je fais comme ça, ça marche. Moi, les premières fois où je suis arrivé à Mimi 4, en même temps, il y avait des conférences autour de moi à Black Hat qui étaient là, voici comment on casse les HNTLM. C'est bien, j'en ai rien à faire, je les en clair, les mots de passe. Enfin, voilà, Donc, j'étais et je le suis encore, à mon avis, un intrus complet dans le monde du pentest et de l'infosec, avec des manières de travailler et de rechercher que personne n'utilise.
C'est marrant que tu le vois comme ça.
Ah, je sais pas que je le vois, je connais, j'ai des copains pentesters, j'en ai beaucoup avec qui je travaille, ou même des fois qui m'écrivent, etc. On pense pas du tout de la même manière. Dans un schéma d'attaque, moi dans Unicat, je vais d'abord réfléchir plutôt que de chercher à tout moyen avec l'outil à arriver à mes fins. Or, dans une mission de pentest, c'est plutôt ça, t'as une semaine, ta mission, t'es payé dans le truc, le but c'est d'aller pute. Non, moi non, je serais un puriste de non, je vais même reprogrammer une fonction s'il le faut, etc. Enfin, on travaille pas du tout de la même manière. Ah, il y a ça qui va pas, je vais le reverser. Ah, mais on pourrait chercher la doc. Non, je vais reverser, c'est mieux pour moi.
C'est sûr qu'en PT, t'as pas le temps. Ouais, voilà, ça c'est clair.
Mais voilà, donc on n'a pas le même mindset par rapport à ça. Ils font totalement un métier différent. Et donc, quand tu t'amènes, surtout que je m'amène un peu comme Vincent, que tu as déjà interviewé, lui, il était RSSI à l'époque, hein, quand il était avec ses premiers outils, il a dû le dire. Moi, j'étais directeur de projet. Je manageais déjà à pas mal de niveaux. J'avais des équipes de 60 personnes à des moments. J'étais pas là pour faire du technique, si tu veux. Donc, en plus, quand tu trouves un mec du management qui prend un clavier et qui t'explique comment marche Windows de A à Z, ça fait grincer des dents. Ça fait beaucoup grincer des dents, parce que certains échos ne se comprennent pas et certains managers ne comprennent pas non plus.
Je pense aussi que dans les conférences offensives, quand les gens voient ce que les résultats des recherches, les nouvelles commandes qui sortent, etc., ils sont aussi contents de voir qu'il y a quelqu'un qui va leur simplifier la vie. Du coup, ils sont tous sourires et prêt à applaudir.
Il y a ça, et un certain, je sais que c'est vrai, hein, c'est pas juste des effets des bouffons, mais il me disait, il y a certaines boîtes aussi, oui, ils avaient ça en stock, mais ils voulaient pas le sortir. Et donc, ça leur coûte de l'art sous le pied aussi. Et le pire que je puisse faire aussi, parce que évidemment, il y a certaines boîtes, c'est leur métier aussi, ça leur fait de la pub de faire des papiers quand ils trouvent des choses, ça leur rapporte des clients, etc. Donc, quand ils voient que t'as un petit con avec un café qui, en s'embêtant un soir à reverser RDP, leur a trouvé une nouvelle technique de mot de passe, certains, ça fait 6 mois qu'ils bossaient sur le sujet dans des boîtes.
À trois
personnes, il espérait pouvoir publier un papier et le mettre à une conférence. T'as un petit con qui s'amène, qui fait ça en freestyle, ça fait grincer des dents.
Bah, on va en parler, ça, mais pas tout de suite, parce qu'avant j'ai d'autres questions. Mais en tout cas, je trouve ça très très intéressant, cette vision que t'as de toi-même par rapport à ton métier. Et moi, je ne peux que recommander aux auditrices et auditeurs d'aller les voir. À minima, c'est 3 conférences, parce que comme je le dis, c'est vraiment 3 heures de démo de 2004. Il y avait vraiment tout ce qu'on veut voir.
Il y a un super accent de merde, donc c'est génial. Et j'ai des super chemises et des t-shirts aussi.
Ouais, l'accent est particulièrement spectaculaire.
On m'a dit de ne pas faire attention à l'accent. À l'étranger, ils aiment bien l'accent français. Je suis OK, ça tombe bien.
Ouais, et surtout que je ne ferai pas mieux, donc voilà. Moi, je me tais. Quand tu fais le dev de l'outil, donc ça pourrait être Mimikatz ou Kekeo. Non, on va pas parler de Kekeo pour l'instant. Juste Mimikatz, on va prendre. Pure Mimikatz. Qu'est-ce qui t'a posé le plus gros problème? C'est-à-dire pas le plus gros temps de dev, mais vraiment le plus gros problème où tu t'es dit, il y a moyen que ça sorte pas, enfin que ça marche pas ou quelque chose comme ça.
Mais ça, c'est tout le temps le cas quand je programme. C'est
T'es tout le temps.
un pari. C'est un pari. On passe un certain. Même dans l'IDEA, tu passes des heures et des heures. Tu n'as pas la certitude à la fin que tu vas trouver la manière la plus élégante
Ouais,
d'arriver à
mais
tes fins,
y a bien
la
une
manière industrielle de le
fonction,
faire.
il y a bien une fonction dans Mimikatz, tu t'es dit, quand même celle-là, j'en ai chié par rapport aux autres.
Ouais, il y en a quelques-unes. Il y a un interpréteur de base de registre complet en C, bas niveau, que j'ai dû recréer en Python. C'est relativement simple parce que tu
Voilà,
te
c'est
trompes
ça
tout
qu'on
le temps
veut.
là.
C'est ces
Mais il y a
détails-là
ça,
qu'on veut.
il y a ça qui est très chiant. Il y a les analyseurs de mini-dump aussi que je me suis coltiné en C. Enfin, de toute façon, vu que c'est du C, dans tous les cas, t'en chies. Hein.
Ah oui.
Et je
Outre
me suis
ça.
fait un mini injecteur de shellcode quasiment dans Mimikatz, qui injecte des shellcodes, qui remplace des patterns en mémoire, voilà, qui me permet d'exécuter des fonctions où je veux un petit peu. Il y a des petites choses qui sont cachées, parce qu'elles sont utilisées en background, mais c'est toujours un peu plus dangereux. Et puis à l'époque, quand je parce que, en fait, je l'enchaînais pour tout, parce que au fur et à mesure que j'ai développé Mimikatz, j'ai appris le C, parce que je ne connaissais vraiment pas le C Windows. Et donc, quand tu te dis, bah, je vais devoir injecter une DLL, c'est bien, mais comment je communique avec? Ah, il y a des named pipes, je ne sais pas ce que c'est qu'un named pipe, et donc tu apprends. Et en fait, donc, pour maintenant des choses qui me paraissent hyper simples, parce que j'ai fait des petits modules et je sais comment ça marche, mais les premières années, c'est une nouveauté, comment je fais ça? C'est toujours un peu compliqué. Et puis après, de toute façon, j'adore Microsoft, hein, étonnamment, je trouve qu'ils ont des API hyper documentées maintenant, enfin que ça commence, c'est très 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 sérieux, c'est très facile de programmer, mais il reste quand même certaines choses legacy, ou même dans le code de Microsoft, même leur nom de fonction dans les symboles de débugage, tu sais ils le disent qu'ils ont fait quelque chose d'incorrect. Et quand tu te heurtes à de la crypto qu'ils ont fait eux-mêmes à la main qui est fausse, tu mets pas mal d'heures, pas mal de jours des fois à te dire, mais non, mais c'est pas mon code qui est faux, ma manière de chiffrer, déchiffrer est bonne, c'est juste eux qui ont fait de la merde. Mais t'as perdu 3 jours. Voilà, c'est des petites choses comme ça.
Je vois, je vois, je vois. Non, mais c'est. Ok, je vois, je vois. Moi, j'aime bien poser cette question de qu'est-ce qui est souvent, qu'est-ce qui était problématique ou qu'est-ce qui t'a pris le plus de temps?
Un truc qui m'a pris énormément de temps, mais j'ai appris après, bien après comment le faire de manière correcte, c'était quand j'ai créé les golden tickets.
Ah,
Faut
les
pas que
fameux.
tu arrives à trouver mes codes sources à l'époque, même s'ils sont à mon avis versionnés. Mais je crée les structures ASCII quasiment à la main, complète. Alors je le fais toujours un petit peu, mais il y avait surtout l'encodage NDR qui est utilisé au sein d'RPC, que je faisais à la main. Donc, il y avait aussi des fautes hein, dedans hein, qui étaient faites au départ et après qui passaient quand même, ou j'ai corrigé en ajustant un petit peu. Il y avait l'encodage NDR à la main. Après, j'ai découvert comment appeler les fonctions RPC qui allaient bien avec Windows et comment recréer les IDL qui allaient bien. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était ça. Je savais juste qu'il fallait que je crée un ticket Kerberos qui avait à peu près cette gueule-là, pour que ça passe. Eh ben, en C, faire un truc comme ça, c'est pas simple. Même dans d'autres langages, hein, en
Mais
C encore
est-ce
plus.
que, là, genre, au Golden Ticket, c'est un bon exemple. Est-ce que c'est l'idée, c'est de, avant de vraiment d'avoir l'exploit qui, enfin moi je dis exploit, hein, entre guillemets, l'exploit qui marche bien, est-ce que l'idée c'est, bah, je vais tester, voir si ça marche, ou tu sais que ça va marcher, donc tu vas le dev, ou tu as déjà lu un truc avant dans la documentation Microsoft, par exemple, où tu sais que ça va marcher et tu le dev, ou des fois il y a l'intuition et tu te dis, ah, je vais tester, peut-être que ça va marcher, on verra. Ça s'est arrivé ça?
Il y a les deux, mais en fait, dans le monde de Windows et même dans tout, effectivement, tu fais bien de dire que c'est un. Tu vois, tu appelles ça un exploit, mais dans Mimikatz, il n'y a pas d'exploit. Aucun.
Oui, j'ai dit entre guillemets, hein.
Tu as bien fait de le préciser, et c'est très important. Bon, le Golden Ticket, tu en parles à n'importe quel mec du MIT qui a créé le protocole, il va dire, bah oui, c'est totalement normal. Si tu as la clé du KDC, tu peux forger des tickets. C'est totalement normal. Donc, une fois que tu as compris un peu comment fonctionnait déjà le protocole, à peu près complètement, voilà, que tu comprends les RFC, un petit peu ses limites. Un petit peu reversé pour voir comment Windows gérait ça. Je dis, bah ok, mais comment Microsoft a implémenté le protocole Kerberos? Il ne le documente pas, hein, le KerBTGT, à quoi ça servait. Il y a même une conf à DEFCON qui était dédiée à qu'est-ce que le KerBTGT par Chris. Mais Une fois que tu sais ça, tu te dis, bah oui, mais en fait, c'est normal. Car BTGT, une fois que tu as compris qu'il sert à conserver la clé du domaine, tu te dis, bah, il suffirait de la récupérer. Et en théorie, ça me permet de forger des tickets. Bon, ça, c'est juste en théorie. Après, il faut le faire à la main.
Voilà, c'est
Mais
ça.
tu prends n'importe quel mec qui a créé la stack Kerberos sous Linux, tu lui donnes la clé, mais tu fais ça en 2 minutes.
Ok.
Mais voilà, moi, j'ai vu la stack Kerberos, j'ai fait, ok, je vais recréer ma stack Kerberos. On va arrêter les conneries. Mais en fait, ce n'est que de la logique. Et les mecs qui sont capables de comprendre, les filles, hein, je, attention, pas de sexisme, mais qui sont capables de comprendre les protocoles complets, comment fonctionnent, quelles sont les limites de ces protocoles-là, déjà normalement, même pas dans un but de hacking, juste de pouvoir comprendre comment ça fonctionne et de débugger quand il y a des problèmes, des choses de ce type-là. NTLM, tu vois, bah, par exemple, tu as eu Laurent sur le sujet, mais du NTLM, ou comprendre NTLM et Kerberos parfaitement, ne serait-ce que pour le faire fonctionner déjà sans faire de hack, tu peux y passer des années. Et une fois que tu as pris ce temps-là, bah ensuite tu peux chercher des limites un petit peu à pousser, à trouver des cas dérivés d'utilisation, des choses de ce type-là. Mais
On
si tu...
retrouve exactement la même chose qu'a dit Laurent après l'épisode sur Responder, où bah, comment il a commencé pour créer Responder, c'était il essayait de Il était en pentest lui pour le coup, mais il est revenu le soir et il avait son pcap, tu vois, et il a essayé de regarder ce qui se passait. Il a vu le protocole LLMNR, il a fait ok, c'est bizarre, on va essayer de voir. Il a essayé de comprendre le protocole, comment ça fonctionnait, comment essayer de faire en sorte qu'on lui envoie des hash, etc., via ce protocole, etc. Et pareil, voilà, c'était à l'analyse du protocole, pcap, RFC,
Comment
et
ça fonctionne déjà normalement.
ouais, c'est
Ensuite,
ça,
on verra
exactement.
comment faire quelque chose. Et les personnes qui ont à la fois le temps et ensuite les moyens ensuite de programmer un outil d'ailleurs. Il y a des gens qui savent programmer, mais ils sont incapables de comprendre un protocole. Et réciproquement, hein, il y a des mecs qui sont très bons pour t'expliquer en théorie comment fonctionne un protocole. Alors pour le mettre en œuvre ou le programmer, tu peux toujours courir. Arriver à mixer les deux, c'est beaucoup
C'est
plus
très
compliqué
rare,
que
je
ça en a l'air.
pense. C'est très rare
C'est
aussi.
compliqué, c'est compliqué. Il faut avoir le temps. Puis des fois, je code des trucs que je ne comprends pas et je le comprends après aussi. Ça arrive.
Ah, c'est une question de
Mais
temps et
je
de
peux.
compétences, hein.
C'est ça.
Coder, c'est pas tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas codeur,
On apprend comme ça de manière générale, mais c'est le golden ticket finalement. Oui, c'est l'implémentation logique de Kerberos avec les spécificités de Microsoft. Ce n'est que ça.
Oui, voilà, c'est très très bien défini. Et bien mieux que mon mot exploite. Très très bien défini. Effectivement, il n'y a pas d'exploit. C'est une très bonne remarque. Je ne savais pas trop comment le dire. Mais voilà, tu l'as très bien résumé. Aussi, donc effectivement, avant, tu récupérais les. Enfin, avant, je dis avant, mais bon, c'est toujours le cas. Hein,
Quand j'étais jeune.
non, 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 je voulais dire avant, enfin, avant, en fait, depuis maintenant, le double digest, c'est ce qui permettait. Ça c'était la config qui faisait que tes mots de passe tu pouvais les retrouver en clair, et une fois que c'est désactivé, maintenant tu n'as plus que le hash dans la
En
mémoire du
mémoire, oui.
processus. Est-ce que tu considères que c'est grâce à ton outil que Microsoft a s'est bougé pour faire quelque chose ou...
Ça, sur ce cas-là précisément, c'est même certain.
Ok.
Pour d'autres trucs, non, pas forcément. Les gens croient que c'est moi, mais non, faut pas croire. Hein. Microsoft, j'ai une toute petite influence pour relativiser des choses. Mais sur double
C'est
digest,
pour ça que
oui,
je
là,
pose la
clairement,
question.
là, ils avaient vraiment aucune raison de le laisser activer. Mais donc, ils ont pu le désactiver. Mais parce que, effectivement, faire bouger Microsoft pour revenir sur des choix qu'ils ont faits techniques, à cause du legacy, c'est très dur. C'est pas qu'ils veulent pas, hein. C'est qu'ils peuvent plus. Oui, mais on ne sait
Oui.
pas quels sont les clients qui se servent de ça, et si on le désactive sans rien dire, si on le désactive de nous-mêmes et que ce n'est pas un opt-out, eh ben
C'est
ça
ce
peut
qu'ils
poser des
disent
problèmes.
à Laurent, de répondre à chaque
Et oui,
fois par
c'est leur
rapport à...
réponse classique. C'est très complexe pour eux de faire des choses comme ça, mais après, ils doivent peser le pour et le contre. Et là, on vit une époque assez formidable chez Microsoft aussi par rapport à ça. Ça fait quelques années où ils arrivent à faire passer des changements d'architecture qui peuvent même avoir un impact sur les performances. Avant, ils le mesuraient, ils disaient, mais si ça change de 0,1%, on ne le fait même pas. Ils peuvent avoir, par exemple, Credential Guard qui a été implémenté, bah oui, ça nécessite de faire tourner un hyperviseur. Pour te dire que les performances, oui, elles tombent un petit peu sur la machine, hein, quand tu fais ça, même si c'est minime, elles tombent un petit peu. Et pourtant, ils ont réussi à pousser cette option-là. Donc, ils ont enlevé WDGest. Ouais, donc, ils ont des positions qui, il y a quelques années, qui a été inimaginables.
Du coup, j'ai une autre. Alors, ils ont aussi mis le run as PPL. Je sais pas quand ça a été mis. Tu sais, pour.
Ça, ils l'ont pas mis par défaut, hein. C'est un truc que tu peux activer, mais il n'y est pas, hein, par défaut. C'est
Il n'est pas par
l'isolation du
défaut, effectivement.
processus CLSASS. Effectivement, ils l'ont fait à un moment pour répondre rapidement. Alors, ils ont dû avoir, hein, une agence gouvernementale américaine en 3 lettres qui leur a dit, franchement, faites quelque chose, c'est plus possible, on se fait poney à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle version. Ils ont dû faire un truc à la va-vite.
À la va-vite, je sais pas si c'est la va-vite,
Si,
mais.
si, ça la va vite. Chez Microsoft, en interne, quelques années plus tard, des gens qui n'y sont plus m'ont dit, mais même eux, ils n'y croyaient pas. Hein. Le soir même où ils ont sorti ça, je leur ai dit, hey, j'ai mis à jour le driver, regardez, on fait tomber votre protection.
Oui, ça j'ai vu. Et d'ailleurs, récemment, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, il y a Hitman, qui était dans ce podcast pour le deuxième épisode, qui a sorti un outil qui s'appelle PPL Dump, qui du coup le fait depuis. Je ne sais plus ce qu'il fait, mais en vrai, il le
Oui,
fait.
alors, oui, j'ai vu plusieurs techniques qui reposent sur des drivers vulnérables ou des
Et.
dumps Webhault qui provoquent un dump. Il y a plusieurs manières de les obtenir.
Il y a, ouais,
Après, moi,
en
c'était juste parce
fait,
que.
il y a plusieurs manières en fait de bypass cette protection. Mais bon, c'est toujours ça, après tout.
Mais c'est clair. Après, c'est pour montrer à Microsoft, si votre protection, c'est juste un flag dans le kernel, ça va pas durer longtemps, quoi. Voilà. C'était plutôt ça, hein, que je cherchais à montrer. C'est impossible d'avoir une solution parfaite. Mais quand même, il faut qu'ils donnent un peu plus de mal. Voilà. Si moi ça me prend vraiment 2 minutes quand ils sortent une fonctionnalité, c'est qu'il y a un problème. C'est pas mon métier de hein, trouver des failles, voilà. Donc juste en rigolant, je dis attendez, vous avez sorti ça m'a pris 20 secondes. Vous doutez bien que des gouvernements plus dangereux, bon, le but c'est de trouver des failles, ils l'ont trouvé même peut-être même avant que ça soit sur Internet.
J'ai plus les détails pour l'outil de Hitman, mais je mettrai le lien dans la description du podcast. Ça s'appelle PPL Dump. Et ça marche vraiment puisque je l'ai utilisé en pentest récemment. Ils avaient Renas PPL partout. Et en fait, je leur ai dit, c'est bien, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Dommage. Donc ils étaient un petit peu dégoûtés parce qu'ils se pensaient immunisés. Tu vois, ils se pensaient immunisés. Parce que, on pourrait utiliser Mimikatz, s'injecter le driver, etc. Mais tu sais, quand tu as un antivirus, etc., tu dois déjà avoir pris ce temps avant d'avoir obfusqué. Ou...
Bien
Bon, j'ai
sûr,
bien.
c'est toujours chiant, bien sûr.
Voilà, mais quand tu es en pentest, des fois, il te le faut tout de suite. On est vendredi 16h, t'as plus que 2h, tu vois. Après, c'est terminé. Et tu as besoin
De toute
d'avoir une
façon,
solution rapide.
il faut avoir tous les outils sous la main parce qu'on ne sait
Ouais.
jamais lequel va fonctionner, lequel ne va pas
Lequel,
fonctionner.
et du coup, j'avais utilisé celui d'Hitman. Le tien aurait fonctionné, mais pour le coup, celui d'Hitman, il venait juste de sortir en plus. Du coup, pas du tout vu par les AV. Et c'est passé. Et ils étaient bien dégoûtés. Et
Ah oui.
c'était une bonne chose. Et du coup, ils m'ont dit, mais en fait, pourquoi on a mis Renas PPL et tout? J'aurais dit, ouais, mais
Mais
bon,
ça protège. C'est mieux que rien.
c'est exactement ce que j'aurais dit. J'ai dit, voilà, hein, imaginez un ransomware, il n'aurait pas pu, il n'aurait pas prévu ce cas-là, ou en espérant hein, qu'il n'ait pas prévu ce cas-là.
Non, non, il est prêt. La majorité, ils sont vraiment très basiques, hein,
Et
les
j'avais
ransomware.
une question pour toi, j'en profite hein, que tu es là, hein. J'en profite. Je me suis toujours fait cette remarque et j'ai vu que ça existait. Hein. Il y a une clé de registre qui s'appelle Token Leak Detect Delay Sec, très compliqué, qui permet de définir un délai quand une personne se log out, d'effacer en fait les creds qui sont dans la mémoire LSAS. Alors, pour les protected users, les utilisateurs qui sont dans le groupe protected user, ça c'est bon en fait, à part bon, ce que j'ai lu, hein, mais de ce que j'ai constaté aussi, c'est que quand ils se loguent sur une machine et qu'ils se délogent, leur identifiant, notamment le hash, il est effacé. Et on peut le forcer pour les utilisateurs normaux, entre guillemets, qui s'appellent. On peut forcer une clé de registre. Ma question que je voulais te poser, peut-être tu as la réponse ou peut-être pas, c'est pourquoi. Ce ne serait pas forcé à tous les utilisateurs le fait que tu te logues. Ok, bon, là, tu as ton hash qui est dans la mémoire. J'ai envie de dire, c'est le protocole, c'est comme ça, il faut bien que ça fonctionne. Mais par contre, quand tu te délogues, tu n'en as plus besoin. Pourquoi ce hash, il n'est pas effacé en fait?
Ah, il l'est dans les faits. Hein.
Il l'est dans les
Par
faits.
défaut, il est tout le temps effacé quand tu te délogues, surtout maintenant qu'ils ont bien nettoyé le code de l'SASS. La clé avait été mise en place, c'était plutôt pour les anciennes versions les premières versions de Windows qui commençaient à gérer ça. Parce qu'en fait, ils s'apercevaient que. Alors, pourquoi t'es, pour, en fait, comment les hash restent en mémoire tant que en fait, la structure est encore utilisée? Ils ont des locks qui sont mis dessus, hein, ils ont des compteurs qui disent bah, si la structure qui définit l'utilisateur est encore utilisée, bah, je vais pas free la mémoire parce qu'on aura des problèmes, tu vois, des choses de ce type-là.
Ouais.
Donc c'est comme ça que c'est codé. Et en fait, pendant des années, c'était un peu codé comme de la daube. Il y avait certaines fonctions dans les SASS, ou certains providers qui étaient injectés dans les SASS, qui ne relâchaient que dalle. Et en fait,
D'accord.
donc les processus. C'est pour ça qu'on prenait un vieux 2003, tu trouvais des fois des centaines de credentials qui restaient. Et ils s'en
Ouais,
foutaient un petit peu
mais en fait,
de bien vider.
ça m'est déjà arrivé sur des serveurs 2016. Donc des serveurs voilà, de dev, on va dire, où je vois que y a que deux
Encore un
utilisateurs.
truc qui tourne.
Il y a que
Non, c'est
deux
encore un
utilisateurs.
truc qui tourne.
D'accord, ok. Ouais.
Quant à ça.
Oui, parce
Et
que
là, en fait,
sûrement qu'ils l'ont fait en RDP et un truc du genre,
RDP
tu vois.
où tu as encore un process qui tourne encore sous leur identité et qui n'a pas
Exactement.
forcément libéré son token.
Ok,
Au final,
donc.
c'est qu'un token l'identité. Donc, si l'objet token n'est pas libéré, ça reste en mémoire.
Donc ça me paraît
Mais
logique.
la clé de registre est faite parce qu'il y a un watchdog qui a été créé dans les SASS qui va justement checker à intervalles réguliers si l'objet est vraiment utilisé ou non
D'accord,
et
ok.
le virera de manière un peu plus sec au bout d'un moment.
D'accord, donc normalement, on est censé pas, si je login logoff, on est censé pas retrouver.
Exactement.
D'accord. Et donc protected user, on n'est pas censé retrouver même quand la session est active ou...
Non, tu n'es pas censé retrouver. Alors, ton ticket Kerberos sur moins long. Alors, déjà, le NTLM est interdit, donc tu n'es pas censé avoir de NTLM en mémoire.
C'est ça, ouais, c'est ça.
En fait, c'est le client qui décide d'être un peu plus strict. Donc, c'est toujours beau de compter sur le client pour appliquer des procédures de sécurité, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc, quand tu te logs à un protected user, eh ben, tu obtiens ton ticket Kerberos et les clés qui t'ont servi à obtenir ton ticket Kerberos sont immédiatement effacées. Donc, lors du renouvellement, qui est à 4 heures, je crois par défaut, au lieu de 10 heures, il te redemandera ton mot de passe. Parce que justement, il n'a conservé, ou ta carte à puce, parce qu'il n'a conservé en mémoire aucun élément qui lui permet de faire du single sign-on longue durée. C'est du single sign-on minimal avec ton ticket Kerberos, uniquement.
Ok. En fait, c'est dingue, mais c'est le genre de truc tu lis ou tu écoutes, tu le sais, enfin, tu l'as appris à un moment donné, en fait, il y a tellement de termes et tout que tu l'oublies. Et quand tu
Oui,
réexpliques, ça m'a
on n'a pas
paru
tant que ça.
vachement, vachement logique. Et je me dis, bah oui, c'est vrai, en fait, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est vrai que. C'est impressionnant comment tu peux pas te fixer sur un truc, il y a tellement de termes à comprendre et à voir pour le temps d'une
J'oublie
semaine.
régulièrement aussi. Hein. J'oublie moi aussi régulièrement. Je regarde mes propres vidéos, pas parce que j'adore voir mes t-shirts, mais des fois je regarde aussi. Ah, j'ai fait comme ça dans ma démo. C'est comme ça. Je retrouve, hein,
Ouais, mais le pire,
je
c'est
oublie
que
plein de trucs. Hein.
la question que je viens de te poser, quand tu m'as expliqué, j'ai réalisé que je m'étais posé exactement cette question quand il y a ce sujet des mots de passe RDP en clair. Et tu sais, des gens se connectent. Enfin, je regardais si quand tu te connectes en restricted admin ou avec le compte protected user et tout, si tu avais ton mot de passe et tout. Ouais. Et je m'étais
Restricted
posé.
user, il y est.
Voilà, je
Restricted
m'étais
admin, il
posé
n'y est
cette
pas. Parce que
question et
c'est un challenge response, donc il n'y a pas de conservation.
Exactement. Et je m'étais déjà posé cette question. Et j'avais déjà oublié la réponse. Incroyable. Bref.
Après, c'est toujours intéressant de le vérifier. Parce
Oui,
qu'effectivement,
ouais.
je mélange aussi des principes que je connais et dont je sais qu'ils devraient être appliqués comme ça. Mais l'expérience a montré que des fois, Microsoft prenait quelques libertés. Donc ça vaut toujours le coup de vérifier, même si en théorie, ça ne devrait pas l'être.
Il est temps de mettre fin à cette première partie du podcast, mais ne quittez pas car on se retrouve tout de suite pour une deuxième partie du podcast sur Mimikatz. Et je viens du futur, les sujets abordés seront le RDP, Kequeo, Smartcard, l'open source, le dev et toutes ces choses-là. La deuxième partie est juste magnifique. Je vous souhaite une très bonne écoute. J'espère que cette première partie vous aura plu. Ciao!